Calade, ma radio.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
De Calade, ma radio, bonjour, vous écoutez Couleurs du Monde, nous arrivons à notre dernière émission de notre saison 2023-2024, saison radiophonique, et comme ça sent l'été et les vacances, on va reparler de voyage. Mais avant, une petite chronique géopolitique de l'ami Jean-François. C'est parti Jean-François, on t'écoute, de quoi tu vas nous parler?
Bonjour à tous, eh ben, je vais profiter de l'actualité pour parler des Jeux Olympiques.
Ah bah évidemment, c'est une bonne idée ça.
Et oui, puisque du 26 juillet au 11 août prochain se tiendront les 33e Jeux Olympiques d'été à Paris. C'est l'occasion pour nous de démontrer que cette fête sportive contient aussi des enjeux géopolitiques et politiques.
Et économiques aussi, mais bon, on va laisser
ouais,
de côté.
Mais je vais laisser de côté pour cette chronique.
Ouais. Ouais.
Donc pour paraphraser le tacticien militaire prussien Karl von Clausewitz, cher à nos élèves d'ALGGSP.
Là, il nous casse la tête. Von Clausewitz, c'est bon, référence.
On peut dire que les JO ne sont que la simple continuation de la politique par d'autres moyens.
Bien vu, bien vu. Bon, alors on va peut-être faire, enfin tu vas faire, parce que c'est pas moi qui travaille, un petit retour sur le long terme, on va dire un retour en arrière, hein, pour voir ce que ça représentait à l'origine.
Ouais, alors dans l'Antiquité, au 8e siècle avant Jésus-Christ, se tiennent les Jeux panhelléniques, qui sont donc les premiers Jeux olympiques. Ils ont lieu tous les 4 ans au solstice d'été à Olympie, Delphes ou Corinthe. Les meilleurs athlètes masculins viennent de toutes les cités grecques pour s'affronter. Et les rivalités entre Spartiates et Athéniens, qui disputent alors l'hégémonie sur le monde grec, sont très présentes durant la compétition. Pour autant, la coutume est de ne pas se faire la guerre durant la période d'ouverture des Jeux. C'est la naissance de la fameuse trêve olympique.
Ouais,
oui. Une philosophie qui va d'ailleurs être reprise en 1896 par le français Pierre de Coubertin,
fondateur,
le baron qui va être le fondateur des Jeux olympiques modernes à Athènes. L'événement qui réunit alors les jeunes hommes de la classe dirigeante peut, selon lui, pacifier les relations internationales.
Bon, fin 19e, on pourrait dire que l'idéal de paix va pas bien résister à la montée des nationalismes.
Ouais, effectivement.
Qu'est-ce que t'en
penses ? Ouais, c'est ça. Hein. Et particulièrement visible d'ailleurs cette montée des nationalismes lors des JO de Berlin en 1936.
Ouais.
En effet, malgré l'appel au boycott de plusieurs pays dénonçant l'antisémitisme et le militarisme du régime, 49 délégations nationales participent à la plus grande opération de propagande nazie organisée par le Troisième Reich. Hitler veut montrer au monde l'image d'une Allemagne forte et unie durant les 15 jours d'épreuve et promouvoir le mythe de la supériorité aryenne. D'après lui, les Allemands, s'inscrivant comme les héritiers d'une antiquité fantasmée avec l'image fameuse d'athlètes blonds et héroïques. L'Allemagne sort d'ailleurs victorieuse de la compétition avec 89 médailles, mais sa propagande est mise à mal par les 4 médailles d'or du sprinteur afro-américain Jesse Owens,
et
ouais, le fameux,
bien sûr,
qui inflige donc un cinglant, camouflé à Hitler.
Et ouais. Et bon, après, on va sauter à l'après Deuxième Guerre mondiale et bon, on rentre dans ce qu'on appelle la guerre froide.
Ouais.
Et ça va être un petit peu tendu également sur le plan géopolitique.
C'est tendu, donc on assiste pendant la guerre froide à un affrontement, comme vous le savez, entre États-Unis et OSS dans tous les domaines et donc aussi sur le plan sportif. Se manifeste alors une véritable course aux médailles olympiques, le camp obtenant le plus de médailles étant censé offrir le meilleur modèle de société.
Ouais,
et dès 1956, lors des JO de Melbourne, en Australie, dont on reparlera plus tard peut-être, les Soviétiques passent devant les Américains avec 37 médailles d'or contre 32. Cette concurrence se retrouve entre les deux Allemagnes aussi, entre la RDA et la RFA.
Ouais.
La RDA d'ailleurs va aller jusqu'à organiser un système de dopage d'État.
Industriel, ça va être insensé.
Avec plus de 10 000 sportifs quand même est-allemands dopés dans les années 70-80 et qui va permettre finalement à ce petit pays de seulement 76 millions d'habitants de terminer deuxième au classement des médailles. De
16 millions, hein, pas 76.
J'ai
16 millions, t'as dit 76.
Ah, pardon, 16 millions excuse-moi. D'habitants. Oui, parce que 76, c'est les JO de Montréal et c'est 16 millions d'habitants en RDA à l'époque. Ils vont terminer donc derrière l'URSS.
Ouais.
Alors, dans cette confrontation entre les deux blocs, l'arme la plus radicale a été le boycott. En 1980, les États-Unis et une soixantaine de pays refusent ainsi de participer aux Jeux olympiques de Moscou,
ouais.
protestant de ce fait contre l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS un an plus tôt.
Mm-hmm.
Quatre ans plus tard, c'est au tour de l'URSS et de 14 de ses alliés de boycotter les JO de Los Angeles.
Eh oui, c'était très drôle à l'époque. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme changement après la guerre froide ?
Alors, les grands événements sportifs comme les JO, aujourd'hui, sont devenus des armes de séduction massive utilisées par les puissances. Et alors, à partir des années 2000, l'organisation des JO va cesser d'être l'apanage des pays occidentaux pour marquer la montée en force des pays émergents, mm-hmm. comme le Brésil qui va organiser les JO de Rio en 2016, mm-hmm. mais surtout de la Chine et de la Russie.
Ouais.
Ainsi, la Chine organise les JO d'été en 2008 et d'hiver en 2022 à Pékin et peut montrer au monde la modernité de ses infrastructures. Cependant, la démocratisation du pays, un temps espéré, n'a pas eu lieu. Au contraire, le régime de Xi Jinping, on peut dire, c'est bien le contraire, n'a fait que renforcer sa dimension autoritaire. Et pour protester contre la violente répression ouïghour dans le Xinjiang, la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver de 2022 a été boycottée, ouais. encore une fois, par plusieurs puissances occidentales, dont les États-Unis.
Mmh.
Quant à la Russie, elle s'est servie des JO de Sochi en 2014 pour signifier son retour sur la scène internationale, alors qu'elle annexait en même temps la Crimée.
Mmh.
En 2022, Russie et Chine ont fait passer un message en affichant leur alliance. Xi Jinping et Vladimir Poutine posant côte à côte lors des JO de Pékin, pendant que Poutine préparait son invasion de l'Ukraine.
Ouais, une invasion qui va lui valoir quand même un paquet de sanctions, hein, je parle de la Russie,
mmh.
Et y compris des sanctions sportives, puisque donc, le nombre d'athlètes russes présents à Paris va être assez réduit.
Mmh.
D'accord.
C'est ça.
Et donc, c'est quoi la stratégie de Poutine face à ces sanctions sportives, hein, qui sont imposées par le CIO, hein,
c'est
le Comité international olympique.
Ouais, bah alors les réactions de Poutine ne sont pas très surprenantes à ces sanctions, puisqu'il dit que les autorités olympiques sont des néo-nazis, comme pas mal de choses chez lui.
On sent le sens de la nuance.
Voilà, c'est ça. À la solde des Américains et de l'Occident. Et il y a une stratégie de sa part de tenter de désoccidentaliser le sport mondial.
Mm.
D'ailleurs, pour protester contre les sanctions qui visent les sportifs russes, Vladimir Poutine va organiser les Jeux de l'amitié en septembre 2024, là, pas longtemps. C'est une sorte d'alternative en fait au JO qui va regrouper 70 pays à peu près.
Intéressant.
Et dans une certaine mesure, sa stratégie fonctionne plutôt bien puisque son discours rencontre un écho favorable auprès d'un certain nombre de puissances comme la Chine, mm-hmm. on l'a déjà vu.
Ouais.
Mais d'autres États moins importants comme ceux du Golfe ou les États africains ou d'Amérique latine.
Mm.
Alors aujourd'hui, ces nouvelles puissances, elles vont chercher à s'accaparer le sport car le sport est devenu un instrument géopolitique et politique très puissant.
Mmh.
Faut dire que les JO, par exemple, sont regardés en général par 4 à 5 milliards de téléspectateurs.
Mmh.
Et le mouvement sportif dans son ensemble représente environ 1 à 2% du PIB mondial.
Ouais.
Dès lors, chacun veut sa part du gâteau.
Ok, alors on va parler de la part du gâteau. Donc c'est censé être la France qui prend sa part du gâteau puisqu'elle organise
des JO
à Paris.
Mmh.
En quoi ces Jeux sont importants pour la France, pour Macron, c'est quoi un peu l'idée ?
Alors pour le président français, l'idée est avant tout d'essayer de construire un narratif positif pour diffuser l'image de Paris à l'international.
Ça a failli marcher, dis donc. S'il n'avait pas foutu un peu le souk à côté sur d'autres sujets.
C'est compliqué maintenant, ouais. L'idée donc pour lui, c'était de faire les Jeux du monde finalement. Et en réalité, c'est de penser le sport au-delà de l'Occident et finalement de réussir à faire en sorte que la France soit acceptée aussi par les puissances non occidentales.
Ce qui, dans le cadre de, comment dire, des sanctions contre la Russie, n'est déjà pas évident, hein, mais c'était un pari, quoi.
C'était un pari plutôt malin. Alors, organiser les JO de Paris, c'est aussi bénéficier d'un écrin vraiment unique pour promouvoir l'excellence à la française. Et c'est une aubaine pour Paris, qui est la première destination touristique mondiale. Mais pas seulement. L'enjeu pour la France est aussi d'offrir un nouvel élan olympique alors que l'organisation d'un tel événement est critiquée pour son coût et son impact environnemental.
Ouais. Il y a des vrais débats. Hein.
Et puis, du coup, on a un budget vraiment faible avec seulement, entre guillemets, des gros guillemets.
Par rapport aux autres
précédents. Seulement 9 milliards d'euros pour cette compétition qui se veut la moins chère de l'histoire. Alors qu'à titre de comparaison, celle de Pékin, les JO de Pékin 2008 avaient coûté quand même 40 milliards d'euros à la Chine.
Voilà. 40.
Donc on est plus réduit quand même.
Effectivement.
Enfin, ces Jeux Olympiques seront aussi un immense défi pour l'image de la France qui va devoir gérer la menace terroriste et des risques de cyberattaques sans précédent.
Mmh.
Avec en même temps dans le contexte, on a deux conflits majeurs en cours, en Ukraine et au Proche-Orient. Des tensions géopolitiques qui sont très fortes.
Mmh.
Et la seule présence des délégations des pays impliqués est un casse-tête quand même diplomatique.
Ouais.
Ainsi, pour la sécurité des JO, on a 30 000 forces de l'ordre qui sont présentes et 22 000 agents privés qui vont être mobilisés à Paris. Mm-hmm. La sécurité des athlètes israéliens, notamment, est un enjeu majeur quand même pour les services intérieurs français. Alors qu'on rappelle quand même qu'il y a eu, en 1972, la tragédie des JO de Munich avec 11 membres de la délégation israélienne qui avaient été tués par un commando palestinien représentant le groupe Septembre Noir. Nous rappelons ainsi que cette grande fête sportive n'est pas toujours un havre de paix et espérons que l'actualité de l'été ne soit pas aussi dramatique.
Merci Jean-François.
Calade.
Les couleurs du monde.
Vous écoutez Couleurs du monde, l'émission, la dernière mission avant les vacances. Et tiens, vacances, voyage. Ouais, on va reparler de voyage, tiens. Hein. D'accord, on a déjà parlé un peu en octobre dernier, mais on va remettre le sujet sur le tapis. Mais je vais laisser une spécialiste des voyages
au moins ça.
Opérer. Emma, c'est à toi.
Voyage, en ce moment, le mot est partout. Hein. On le voit dans les publicités qui nous invitent au voyage, dans les plus belles destinations. On a plein d'articles dans les magazines. Vraiment, en ce début juillet, hein, on a l'impression presque qu'on entendrait en boucle le refrain d'une célèbre chanson. Hein, je vous... Mmh, ouais, vous
enfin, l'avez célèbre pour les plus anciens, hein, parce que les plus jeunes, ils ne sont pas sûrs qu'ils connaissent.
C'est vrai, tu nous la chantes.
Voyage, non, je ne la chante pas. Mais... Bon, on va présenter notre invité, alors, on lui demandera s'il la connaît.
On lui posera la question. Tout cas, ici, sur Calade, ma radio, il ne s'agit pas de faire des injonctions, hein, pas de liste de choses à voir ou à faire. Juste une saine agitation des neurones. Alors, je reprends les mots de Geneviève, hein, je tiens à le dire.
Geneviève, parce que voilà, nous saluons.
Que nous saluons et qui nous avait écrit cette petite intro.
On reconnaît bien son style.
Tout à fait. Du coup, n'annulez rien au niveau des voyages. Par contre, on va juste vous inviter à prendre un peu de distance. De la distance et aussi de vous laisser surprendre, changer une petite habitude, hein, saisir l'aventure au bout de la rue. Mmh. Et voilà, hein, les vacances sont là. Nous, ce qu'on vous propose vraiment, c'est de faire un petit point sur toutes ces différentes choses dont on entend parler, le slow tourisme, le voyage zéro carbone, l'écotourisme. D'accord. En fait, ça veut dire quoi tout ça? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière de la saison des couleurs du monde.
Ouais.
Alors, je vous annonce le menu. D'abord, vas-y, on va effectivement parler de notre invité, Jérémy, qui va nous présenter son expérience en Australie. Dans un deuxième temps, on va essayer de voir un petit peu, de voir la différence entre âge, tourisme, et puis qu'est-ce que c'est que le voyage éthique. Est-ce qu'on peut voyager à la fois écolo et pas cher? Voilà, on va traiter un petit peu de ces questions-là. Et pour finir, voir aussi, est-ce que le voyage zéro carbone, ça existe? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça cache pas d'autres petites choses derrière? On va un petit peu s'interroger.
Voilà, comment voyager sans fracasser la planète, en gros, c'est ça, quoi.
Tout à fait.
Notre invité, Jérémy, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui.
Dis donc, Jérémy, tu connaissais la chanson qu'on évoquait, la Voyage-Voyage?
Voyage-Voyage.
Ah, il la connaît quand même.
Bravo.
Je vous laisse la parole, chers amis.
Eh bien, écoute, Jérémy, est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots?
Ouais, pas de souci. Alors, moi, je m'appelle Jérémy, je suis du coup originaire de la région, donc pas très loin de Villefranche. Et à l'heure actuelle, j'ai 23 ans et quand j'ai eu mes 18 ans, je suis parti à l'étranger, faute de pas savoir ce que je voulais faire comme étude. Et j'avais pas envie du coup de me lancer dans quelque chose où je n'étais pas sûr. Donc j'ai décidé de prendre du temps pour moi et en fait d'essayer d'aller trouver qui j'étais le plus loin possible de tout ce que je connaissais.
C'est marrant, ça c'est paradoxal de partir vraiment loin pour te trouver toi-même.
Exactement, et pour le coup, c'est un des meilleurs choix que j'ai fait, et je peux vous dire que ça a marché, et j'en suis très content.
C'est une thématique classique quand même, ça. Hein,
ouais.
Le voyage pour se découvrir, pour s'accomplir.
Voyage initiatique.
Le voyage du héros, etc.
Le héros Jérémy, c'est ce qu'on... Aussi, hein.
Exactement.
Heureux qui comme Ulysse.
C'est ça.
Bien vu, bien vu. Ok. Et,
alors du coup, Jérémy, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, déjà peut-être... Comment tu as organisé ça? Est-ce que vraiment tu es parti sur un coup de tête? Est-ce que tu avais quand même prévu des choses? Comment ça s'est préparé d'abord?
Alors, ça a toujours été clair dans ma tête depuis que je suis environ en 6e ou 4e, en 5e que j'avais envie de repartir à l'étranger. Donc, j'ai été élevé à l'étranger par ma famille. Donc, on a passé beaucoup de temps dans les pays étrangers et non en France. Donc, déjà, ça m'a aidé à me permettre de partir tout seul. Ensuite, j'avais vraiment pas trop d'idées, j'ai pas préparé ça des années à l'avance, me dire ok, en Australie, il faut faire ci, ça, ça. Pas trop, j'étais un peu comment dire, je regardais à droite à gauche ce qui pouvait m'intéresser. Au début, je regardais pour faire des études à l'étranger. Et puis, je me rendais compte que c'est quand même un coût assez conséquent, faire des études en étranger, qui n'est pas forcément donné à tout le monde. De plus, je reviens sur le fait que je n'étais pas sûr de savoir ce que je voulais faire comme études.
Ouais.
Et je n'avais pas envie de me lancer dans quelque chose dont je n'étais pas sûr. Donc non, ça s'est vraiment fait donc deux, trois mois avant mon bac, donc, aux alentours de avril-mars 2019 maintenant.
D'accord.
Donc il y avait tout, c'était Parcoursup encore, et il y avait, c'était
le
un peu nouveau,
de
exactement. Donc il y avait eu beaucoup de problèmes, enfin c'était un peu galère à ce moment-là. Je me souviens, je n'avais pas un dossier qui était très avantageux. En termes de notes, ce n'était pas un problème. Mais ouais, mon dossier n'était pas avantageux pour aller dans les plus grandes écoles.
Okay.
Donc, j'ai pris la décision de partir deux, trois mois avant.
T'as même pas entré de vœux dans Parcoursup ?
Non. Je me souviens, je n'avais pas mis de vœux. J'avais dit, j'ai mon bac, je pars. Et puis, je verrai ensuite ce qui se passe.
Okay. Voilà. Et le choix de l'Australie, c'est venu comment ?
Alors, j'ai regardé ce qui était... c'est drôle, mais je me souviens m'avoir fait la réflexion de me dire c'est quel est le pays le plus loin de la France.
Effectivement.
Carrément.
Je peux aller. Okay. Et donc, il y avait la Nouvelle-Zélande, il y avait le Canada. Voilà. Et voilà. Et après, j'ai entendu parler donc, des PVT.
Qu'est-ce que c'est que ça, les PVT ?
Alors, je l'ai en anglais. En français, je m'en souviens
plus. Dis-le en anglais.
Donc, c'est WHV, c'est Working Holiday Visa. Donc, c'est permis vacances-travail.
Très bien.
Donc, en fait, c'est un visa de une année qui te permet d'aller dans un pays et de travailler. Et de vivre, une année.
Durant un an, en travaillant. D'accord.
Et donc, c'est des accords entre pays. La France est un des pays qui a le plus d'accords à l'étranger.
D'accord.
Donc, il y a le Japon, il y a l'Australie, le Canada, le Mexique et j'en passe. Donc, voilà. Donc, j'étais tombé sur ça. J'avais fait un peu de recherche sur ça, comment ça se passait. Et puis, je trouvais que ça me correspondait bien. Ça me permettait de pouvoir travailler, donc de vivre. Ouais. Et aussi de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture et d'apprendre l'anglais. Y avait aussi un gros point qui était important pour moi, c'était l'anglais.
D'accord.
Donc, j'ai regardé un peu les pays anglais. Donc, il y avait la Nouvelle-Zélande.
Anglophone en priorité, alors.
Ouais, anglophone, pardon.
D'accord.
Il y avait la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Australie. Et puis, après quelques petites recherches, j'ai rencontré des personnes qui avaient fait ça avant moi. Et mon choix s'est porté sur l'Australie. Au Canada, il fait trop froid.
Ouais, c'est affreux.
Voilà. Donc, j'aime bien le soleil. Donc, j'ai choisi l'Australie. Et puis, je suis parti au final en novembre 2019, donc un mois après mes 18 ans.
D'accord.
Et voilà.
Et t'es parti avec un peu de sous ou t'es vraiment parti les mains dans les poches
Alors, c'était, j'avais commencé à travailler anciennement West Express, qui est à côté de Decathlon, qui maintenant est devenu Quick.
Oui, tout à fait.
Donc, j'ai commencé à travailler là-bas quand j'avais 17 ans, en parallèle de mes études et de mon bac.
D'accord.
Donc ça m'a déjà fait un petit argent de poche. Et j'ai eu du coup un peu d'aide de mon père, qui est de ma mère. L'argent qui était supposé être pour financer peut-être mes études ou pas, du coup...
A servi pour te lancer.
Parents compréhensifs.
Voilà. Parents pour
tous ne le sont pas.
C'est grâce au voyage, quoi. J'ai eu le billet d'avion en cadeau de mes 18 ans, par exemple.
Super.
Très bien.
Donc voilà. Soutenu par ta famille pour pouvoir aussi. C'est important, je pense, quand même.
Pour faire un petit point aussi en termes de règlement, pour avoir un PVT, il faut avoir, du moins pour l'Australie, l'équivalent de 5 000 $ australiens sur son compte en banque.
D'accord.
Ce qui est environ 3 200 €.
D'accord, ok.
Donc, le gouvernement australien
te demande exige qu'il y ait cette somme. De ton compte en banque.
Exactement.
D'accord.
D'accord.
Et voilà.
Ok.
Alors, arrivé là-bas, tu as fait quoi ?
Alors, je suis arrivé là-bas, je suis arrivé à une période qui était un peu compliquée. Donc, juste avant novembre 2019, tout allait bien. Je suis arrivé donc sur Melbourne, qui est Melbourne, qui est complètement sud-est du pays, donc qui est la deuxième plus grande ville d'Australie après Sydney, qui est une ville très, très européenne, mixée avec... les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est des grands buildings.
Un mélange.
Exactement. Donc, je suis arrivé là-bas et à ce moment-là, quand je suis arrivé, c'était un peu compliqué pour moi de trouver un travail parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mon anglais n'était pas très bon. Donc, c'était un peu compliqué. C'était plus on arrive, on se pose dans le pays, j'essaye de rencontrer des personnes, de me faire un réseau, de me faire des contacts. Mmh. Donc pour le logement, c'était des auberges de jeunesse, par exemple. C'est le plus simple et c'est le meilleur moyen donc, de pratiquer l'anglais, de rencontrer du monde et d'avoir accès à différentes opportunités. Mmh. Et vite arrivés les fameux feux de 2019,
décembre-janvier
2019.
Des incendies gigantesques.
Exactement. Donc, il y a eu de gros, gros incendies qui ont bloqué une bonne partie du pays. Ouais. Donc, par exemple, Melbourne était un peu bloqué, donc c'est dans l'état du Victoria, puisque au nord de Melbourne, entre Melbourne et Sydney, c'était là qu'il y avait les plus grosses parties des incendies. Mm-hmm. Et à gauche aussi, donc pour aller direction la côte ouest, c'était un peu bloqué.
Ah oui, donc tu t'es retrouvé un peu coincé.
Je me suis retrouvé un peu coincé. Et donc là, j'avais rencontré quelqu'un qui est maintenant mon meilleur ami depuis 4 ans. On s'était dit, qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait pas trop. Moi, je n'arrivais pas à trouver un travail parce que c'était un peu trop compliqué. Mm-hmm. Donc, sur un coup de tête, j'ai acheté un 4x4. Donc, j'ai acheté un véhicule. Et on voulait, de base, monter sur Sydney. Et puis, avec les feux, ce n'était pas possible. Tout était bloqué. Donc, on a pris la voiture. Et puis, on est parti sur un road trip de 3 semaines en faisant Melbourne, en passant par la côte sud.
D'accord, jusqu'à sud-ouest, quoi.
Ouais,
direction sud-ouest.
Ouais, jusqu'à Perth. Mm-hmm. Et voilà, une fois là-bas, les feux s'étaient calmés déjà. Mm-hmm. Donc j'ai vendu directement le véhicule une fois arrivé sur Perth, parce que en termes d'argent, c'était un peu compliqué. N'avoir pas travaillé
pendant... T'avais pas pu encore travailler.
Pendant 1 ou 2 mois, un peu plus, même 2-3 mois, et puis l'achat du véhicule. Donc j'ai vendu le véhicule directement après être arrivé, ce qui m'a remis un peu sur pied. Et puis là, en fait, je suis vraiment tombé amoureux de la ville de Perth. C'est un peu moins sur le système des villes comme Melbourne, Brisbane ou Sydney. C'est une des villes les plus isolées au monde.
D'accord.
Puisqu'il n'y a vraiment rien à des milliers de kilomètres. C'est la seule grosse ville de l'hémisphère ouest de l'Australie.
Ouais. Finalement, tu as pu te retrouver un peu face à toi, c'est un peu ce que tu cherchais, loin et tout seul face à toi.
Ouais, ouais.
Alors, ce que je propose peut-être, c'est qu'on lance la pause musicale et qu'on revienne ensuite pour que tu nous racontes la suite de tes aventures
australiennes.
Allez.
Many tribes of a modern kind doing brand new work, same spirit by side, joining hearts and hands in ancestral twine, ancestral twine. Many tribes of a modern kind doing brand new work, same spirit by side, joining hearts and hands in ancestral twine, ancestral twine. Slowly it fades, and slowly we fade. And slowly you fade. And slowly. Emma.
Vous écoutez Couleurs du Monde sur Caladma Radio. Notre émission est consacrée au voyage. Nous avons un invité avec nous, donc c'est Jérémy, qui est en train de nous parler de son expérience en Australie. Mais avant, Jérémy, tu pourrais nous dire ce qu'on a écouté ?
Alors oui, donc cette musique, c'est un artiste australien qui s'appelle Xavier Rudd. Donc il est très très connu en Australie et mondialement connu maintenant. Et la musique que vous avez entendue, c'est Spirit Bird. C'est une musique qui explique la lutte des peuples indigènes pour la culture, pour leur culture et contre l'oppression et les violences des occidentaux faites sur les populations indigènes. Voilà, Spirit Bird, c'est le titre, c'est pour savoir que les cultures indigènes, enfin la culture indigène australienne est beaucoup centrée sur la relation avec la nature et le bien-être animal. Voilà.
Très bien, merci Jérémy. Je te redonne la main, Emma.
Absolument. Alors.
Donc nous disions que Jérémy nous parlait de son expérience en Australie. Donc il est allé jusqu'à Perth.
Ouais.
Et c'est là qu'un peu ça a commencé ta vraie aventure.
Ouais. Qu'est-ce que finalement tu t'es mis à faire à Perth quand tu es arrivé là-bas ?
Donc quand je suis arrivé à Perth, on était aux alentours de février 2020.
Ouais.
Et là, il y a ce bon vieux Covid.
Eh oui !
Qui est arrivé, le bon vieux Covid est arrivé.
Eh ben donc ouais, c'était février 2020.
Voilà. Et il est arrivé jusqu'en Australie aussi. Hein,
du coup. Il est arrivé en Australie. Alors ça a été un peu différent en Australie, puisqu'ils ont décidé de fermer les frontières entre États.
Ok.
C'est un État fédéral, l'Australie, c'est ça ?
Il y a 7 États à l'intérieur,
okay.
Mais voilà, il n'y a pas de président.
Comme un peu comme l'Allemagne, etc.
Exactement, ouais. C'est lié au Commonwealth, donc ils ont le roi George, roi d'Angleterre.
Écoute, aujourd'hui c'est le fiston de la
reine. Comment
il s'appelle ?
C'est Charles.
On n'est pas le champion de la royauté.
Exactement, oui. Enfin bref, tout ça pour revenir à la grosse question.
Donc ils ont fermé les frontières entre États à l'intérieur de l'Australie.
Exactement, donc ils ont fermé les frontières à tout le monde en termes du monde et puis aussi à l'intérieur. Donc la grosse question était, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste ? Est-ce que je rentre ? Qu'est-ce qu'est le Covid ? À ce moment-là, il y avait beaucoup d'interrogations.
Tu avais la possibilité de rentrer quand même ? D'être rapatrié ?
Oui. Le gouvernement français a mis en place un rapatriement pris en charge du coup par des vols puisque les billets bien sûr ont commencé à exploser en termes de prix.
Les prix des billets, ouais, bien sûr.
Donc j'ai pris la décision de rester qui a été la meilleure décision de ma vie puisque la plupart des ce qu'on appelle des backpackers, donc des expatriés qui font un working holiday visa, ont pris la décision de rentrer auprès de leur famille, ce qui est très compréhensible, mais donc ce qui veut dire que beaucoup plus d'opportunités en termes de travail.
Bien sûr.
Ça. Donc tout le monde est parti, nous on est resté. J'ai eu la chance du coup d'être arrivé sur Perth parce que c'est un des endroits là où on a moins subi le Covid.
Ah oui.
Donc ça veut dire qu'on n'a pas eu de confinement.
Ah oui.
On a eu les masques pendant 1 à 2 semaines.
Oh, d'accord.
C'est vraiment le bonheur quoi. Après voilà.
En fait c'est un pays tellement isolé que le virus n'est pas arrivé si facilement quoi.
Exactement. Mmh. Alors on a eu un peu de cas. Hein. Si je me souviens il y a eu peut-être une 300 de cas sur la ville de Perth. Mmh. Donc quand ils voyaient que c'était un peu compliqué. Ils ont divisé l'État en régions, donc on ne pouvait pas forcément aller dans toutes les régions sans une preuve. Donc ça a duré un mois. Mais on a eu beaucoup plus de chance que des villes comme Melbourne qui ont eu 10 mois de confinement très très strict.
Donc, tu avais bien fait de vite prendre le large en fait.
Exactement. Donc à ce moment-là, j'ai trouvé un travail en tant que déménageur.
D'accord.
Donc c'était un peu compliqué de trouver la restauration. Il y a eu quand même un petit peu de restrictions sur ça en termes de bar. Mm-hmm. Mais donc j'ai trouvé ce travail et puis j'ai bossé pendant une petite année, je dirais, dans ce domaine-là et tout en continuant en voyageant en Australie. Donc j'ai racheté un 4x4 puis je suis monté sur la côte ouest du coup de Perth jusqu'à Broome. Sur une durée de un mois avec deux potes à moi où là c'était vraiment un voyage extraordinaire, impression d'être sur Mars, c'est magnifique, un côté désert et puis autre côté on a des barrières de corail qui sont magnifiques, une vie maritime magnifique et puis des paysages vraiment à couper le souffle.
Et là en termes de logement, enfin vous dormiez comme ça à la sauvage ou
On dormait dans ce qu'on appelle des swag en Australie, donc c'est en fait des tentes qui ont la particularité d'être un peu en forme de cercueil.
Ok.
Donc c'est un peu drôle à voir, mais oui c'est en tente, on avait un 4x4 pour 3 et puis on dormait un peu là où on voulait quoi.
D'accord.
c'est pas très autorisé.
Donc, ouais, j'allais dire, c'est voilà. Réglementé, ça.
C'est
ouais.
Réglementé, mais bon, c'est, l'Australie est tellement grand comme territoire que...
Ouais, en fait, vous pouviez vous poser un voilà. Petit peu comme nous quand on fait du camping sauvage. Exactement. Tant qu'on ne dérange pas en fait, les populations locales, les animaux, il n'y a pas de souci.
Exactement. Okay. En Australie, il y a l'avantage d'avoir ce qu'on appelle des free camps. Donc, ils ont une grosse culture de camping, du camping en Australie. Donc, il y a vraiment beaucoup d'endroits qui s'appellent des free camps où c'est autorisé de venir poser sa tente et son 4x4 ou son van.
D'accord.
D'accord.
Voilà.
Okay. Et puis après, est-ce que t'as, enfin voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué là-dedans, enfin au cours de tout ce que tu as fait, Jean-François disait qu'il y avait une expérience marquante que tu pouvais nous raconter.
Ouais. Alors j'ai eu déjà un accident de travail en faisant un déménagement où je me suis déboîté l'épaule.
D'accord.
Donc au final, ça m'a coûté une opération, donc j'ai dû rentrer en France, faire mon opération. Oui. Okay. Et ensuite, je suis reparti, donc il s'est écoulé un an, tout ça, et puis je suis retourné en Australie.
Ah oui, donc t'as fait une pause d'un an où t'es revenu en France.
Ouais. Et pour en revenir sur les visas, donc c'est qu'une année, mais on peut avoir plusieurs visas en faisant 3 mois, du coup, pour la deuxième année en milieu rural, que ce soit ferme, mine ou quoi que ce soit.
D'accord.
Et après, pour avoir une troisième année, il faut faire 6 mois.
D'accord. Sauf... Donc une incitation pour qu'on aille que vous alliez bosser dans le milieu agricole. Quoi.
Voilà, là où ils ont
là
besoin.
Là où de personne besoin. Ne veut aller.
Exactement. Mm. Sauf que je n'avais pas fait ça. Sauf que Covid, donc ouais. Ils nous ont un peu donné en fait des années gratuites, ce qui s'appelle le Covid visa.
D'accord.
Si on avait eu un visa pendant l'année du Covid, on pouvait rester. Et il y a eu un autre. Ils nous ont redonné une année de visa. Sur laquelle on était pendant le Covid, en fait.
D'accord.
Donc, c'est pour ça que j'ai pu retourner sans avoir fait ces 3 mois de ferme ou de...
T'as évité la ferme, alors, le travail agricole.
Exactement.
D'accord.
Donc, je suis revenu en novembre 2021, il me semble.
Oui. Ouais.
6 novembre 2021 ou 2022. Et là où j'ai travaillé en mine, voilà.
D'accord. Wow.
Je suis parti travailler
tu
en mine.
Tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu avais... Est-ce que tu as été formé ou vraiment ils t'ont lâché là comme ça?
Alors déjà, j'aimerais bien enlever cette image de mine que les gens ont avec quelqu'un à la pioche avec sa petite lampe et
ouais, Germinal quoi.
Exactement. Zola. Exactement. Mais oui, c'est un milieu qui est très intéressant, notamment en termes de revenus.
C'est des mines de charbon?
C'est des mines de tout. Alors il y a pas trop de mines de charbon. Majoritairement, c'est des mines d'or, des mines de fer.
D'accord.
Et
d'accord.
Tout part en Chine.
Très bien.
Voilà. Donc c'est majoritairement des mines de fer que j'ai fait. Mm-hmm. Mon travail à l'intérieur de la mine, c'était échafaudier.
D'accord.
Alors, ça consiste en quoi?
Mettre les échafaudages.
par exemple, ce qui se passait, donc il y avait plusieurs trades, ce qu'on appelle. Donc mon trade, c'était scaffolder. Donc c'est échafaudier en anglais. Il y avait des trades comme rigger. Donc rigger, c'est ceux qui s'occupent des loads sur les grues. Chargements, merci.
D'accord.
Des chargements sur des grues, donc ils dirigent les chargements. Mm-hmm. Il y a boilermaker, donc soudeur, et il y a tout plein de différents trades. Et par exemple, mon travail, c'était la mine, donc je faisais ce qu'on appelle des shutdowns, ça veut dire que la mine ferme. Mm-hmm. Ils ont une liste de rénovations à faire, il faut changer cette pièce ici, il faut aller là-bas.
Mm-hmm.
Et donc nous, ils nous appellent, ils nous disent, voilà, là-haut, cette pièce... Elle est usée, il faut la changer.
Mmh.
Donc
oui.
Tout est arrêté pour des questions de sécurité, bien
d'accord.
sûr. Et nous, on arrive, OK, il faut qu'on aille là-haut.
Donc, tu montes là ton échafaudage.
Exactement.
Et tu grimpes là-haut. C'est toi qui grimpes et qui...
Alors, nous, on grimpe pour monter l'échafaudage,
ouais.
bien sûr. Mais après, par exemple, on fait on prépare la plateforme de travail pour, par exemple, le soudeur. Ou
d'accord.
ce qu'on appelle
d'accord.
des fitters, ceux d'accord. qui vont aller changer les pièces.
Changer la pièce. Mmh.
Exactement. Et une d'accord. fois que le travail est fait, ils nous disent, feu vert... On remballe tout, okay. et voilà.
Donc, tu faisais partie de la maintenance, quoi, en quelque sorte.
En quelque sorte, ouais.
Mmh. Et, tu peux.
Du coup, tu travaillais pas forcément en continu, c'était plutôt des missions, c'est ça?
C'est ça, c'est un peu comme de l'intérim, en fait.
D'accord.
Sauf que les mines là-bas, elles sont dans le désert, donc c'était vraiment dans le Western Australia et plus au nord, dans la région du Kimberley.
Mmh.
Donc, c'est vraiment dans le désert, on y va en avion. Donc,
d'accord.
par exemple, moi, j'avais une application où on me proposait une mission de 12 jours dans cette mine.
Mm-hmm.
Oui, non. Enfin, c'était à mon choix d'accepter ou pas.
Ouais. D'accord.
Une fois qu'on accepte, ils nous envoient notre billet d'avion. Lundi, 7h, hop, on part en avion et puis en fait on dort dans un camping. C'est vraiment un
camping
créé pour
à côté de la mine finalement.
C'est créé pour la mine, donc c'est la mine qui paye tout ça. Okay. Là où on est logé, nourri, blanchi. Mm-hmm. Et par contre après c'est une mission de 7 jours, c'est 7 jours d'affilée, 12 heures par jour.
Oui, évidemment. Ouais. Alors, ils rentabilisent votre présence.
Ouais, exactement.
C'est plutôt bien rémunéré, si je ne dis pas de bêtises. Parlons pognon.
Parlons pognon. C'est très, très bien rémunéré. Alors, il y a plusieurs échelles, bien sûr. Ouais. Moi, mon niveau, c'était scaffolder intermédiaire. Donc, j'étais échafaudier intermédiaire. Il y a basique, intermédiaire et advanced, donc avancé.
Avancé, oui.
Moi, j'avais passé le niveau intermédiaire. Et donc, il y a différentes payes de jour et de nuit. Mm-hmm. En jour, j'étais payé $55 de l'heure.
D'accord.
Et de nuit, c'était $60 de l'heure. Donc, ça fait j'aime bien dire $1 la minute. Ça fait encore plus... c'est un peu plus choquant.
Mm-hmm. Bah ouais.
Voilà.
Et pour passer ce grade, comment ça se déroule?
Oui, alors pour devenir échafaudier, bien sûr, il faut avoir une formation. Donc, c'est une semaine pour avoir le niveau basique et deux semaines pour avoir le niveau intermédiaire. Donc, c'est une formation que, bien sûr, j'ai payée, qui coûte environ $2000.
D'accord.
Une formation...
Donc, c'est à toi de choisir d'investir les $2000 pour avoir une rémunération et puis ensuite amortir sur une certaine durée, quoi, en quelque sorte.
Mais au total, la formation des $2000 plus, du coup, le matériel, tous mes outils... Donc
tu achètes ton matériel.
Ouais.
Tu viens avec ton matériel.
Ouais, c'est d'accord. Donc, c'est environ $3000 de dépenses mm-hmm. qui sont remboursées en une semaine de travail.
Ah ouais.
D'accord.
Ouais. Ouais, donc ça vaut vraiment le coup de faire cet investissement.
C'est ça. Après, les conditions de vie ne sont pas faciles, surtout mentalement. C'est quand même 12 heures de travail par jour. Bon, on ne travaille pas 12 heures par jour d'affilée, hein,
mais
12 heures d'alerte.
C'est une amplitude quand même.
Exactement. Et puis, pour moi, mon exemple, il y a une fois où je suis parti 27 jours. Donc, c'est ma plus longue mission. Mm-hmm. Et là, mentalement, c'est dur parce qu'on est tout seul. C'est-à-dire qu'on se lève à 4 heures du matin, on va manger, on prend le bus, on travaille toute la journée, on rentre, on douche, on dort.
Ouais. D'accord.
Quand tu fais ça, t'es tout seul dans la mine?
J'ai pas mes amis.
Oui, d'accord. T'es juste avec des collègues de travail.
Voilà, c'est avec des collègues de travail. Okay. Et généralement, c'est pas des gens que je connais.
Fait.
Ça change à chaque
mission. Ouais, d'accord.
Mais mentalement, c'est très compliqué. Après, j'ai eu la chance d'avoir mon meilleur ami qui bossait dans la même compagnie que moi, qui faisait un autre métier. Mais du coup, des fois, on était
amené à vous croiser.
On était amené à se voir.
Mais alors, du coup, tu gagnais beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que tu faisais? Ça te permettait de faire quoi ensuite, cet argent?
Alors, tout cet argent, déjà, j'ai décidé d'aller bosser en mine parce que quand je suis revenu, entre mes deux expériences en Australie, quand je suis revenu en France et que je me suis fait mal à l'épaule, j'avais décidé d'essayer de commencer des études à Lyon. Donc, avoir un appartement à Lyon, faire des études à Lyon, vivre à Lyon, c'est 1 600 € qu'il faut avoir dans sa poche.
Mmh.
Donc, ce qui était pas possible, non faisable. Toujours chaque fin de mois galérer. Enfin, la vie typique d'un étudiant à Lyon, quoi.
Mmh.
Donc, j'ai décidé de repartir en Australie. Et en fait, je ne voulais plus avoir à stresser et avoir à regarder sur mon compte en banque et me dire « là, il faut que je fasse attention ». Donc voilà, et puis cet argent, ça m'a permis déjà d'avoir une liberté financière et puis aussi de financer des voyages. Parce que grâce à ça, j'ai pu faire venir ma mère et ma sœur pendant 3 semaines en Australie, là où on s'est fait un énorme road trip en van sur la côte Est.
Super.
Donc de Sydney jusqu'au nord à Cairns. Mmh. Et voilà, ça coûte un peu cher, mais ça m'a permis de faire ça.
D'accord. Okay.
D'accord, très bien.
Bon. Alors, ce que je vous propose, les amis, c'est de clore sur vraiment ce voyage-là. Puis tu vas nous parler après de tes autres expériences, mais on va un petit peu essayer de définir toutes ces différentes manières de voyager.
I'm gonna make it right.
Couleurs du Monde sur Calade Ma Radio. Notre émission d'aujourd'hui est consacrée au voyage.
Calade. Les couleurs du monde.
Donc nous continuons notre émission sur le voyage en compagnie de Jérémy qui nous a longuement parlé de son expérience australienne.
Et on te remercie beaucoup, Jérémy, d'avoir pu partager tout ça avec nous. Alors, tu vas pouvoir continuer de nous parler de tes autres expériences, mais je vais faire comme un petit point sur les différentes définitions, et notamment notre idée, c'était voyage ou tourisme. Alors, voilà. Le voyage, c'est un terme qui fait référence au déplacement d'une personne d'un lieu à un autre. Il peut être motivé par diverses raisons, le loisir, le travail, rendre visite à des proches, éventuellement même un voyage pour problèmes médicaux. Et il va vraiment inclure tous les types de déplacements, qu'ils soient longs ou courts, et aussi n'importe quel type de moyen de transport. Hein. Ça peut être avion, train, voiture, vélo, à pied, tout est possible. Le tourisme, en revanche, c'est une forme de voyage plus spécifique où l'objectif principal, ça va être de découvrir des lieux et de pratiquer des loisirs. Donc souvent, il implique la visite de lieux d'intérêt, d'activités éventuellement culturelles. Il invite aussi à utiliser des lieux d'hébergement dédiés, des lieux qui sont là pour le séjour. Voilà, ça peut être des chambres d'hôtes, ça peut être des campings, ça peut être des Airbnb, on va dire ce sont des types d'hébergement un petit peu traditionnels, ce qu'on entend par tourisme. Alors déjà, entre voyage et tourisme, toi, tu te situes où, Jérémy ?
Alors, sur tout ce que je viens de vous raconter, pour moi, je me situe plus dans la partie voyage, puisque je me suis vraiment imprégné du coup d'une autre culture. J'ai passé longtemps là-bas, donc c'est... Pour moi, un voyage, c'est quand on reste sur une durée qui est un peu plus longue que, par exemple, le tourisme. C'est des vacances une semaine ou les deux semaines de vacances en été avec la famille. Pour moi, ça se relie plus au tourisme.
Et est-ce qu'on peut dire quand même, au cours de ton voyage, tu as par moment fait du tourisme ?
Exactement. Donc ça, j'ai mis du tourisme dans le voyage. Donc je vivais dans un endroit et puis bien sûr, j'allais visiter d'autres endroits comme différents voyages en Indonésie. Ça, c'est plus... des vacances, donc c'est vraiment du tourisme.
D'accord. Tu veux nous en dire deux, trois mots de ton voyage en Indonésie ?
Ouais. C'était c'est vraiment un pays avec une culture qui est incroyable, des paysages qui sont vraiment magnifiques. Malheureusement, c'est très partagé entre les inégalités, donc il y a beaucoup de pauvreté.
D'accord.
Et il y a beaucoup de tourisme de masse. Donc,
d'accord.
Et un pays qui n'est pas aussi avancé que, par exemple, l'Australie, et qui subit un tourisme de masse, les infrastructures derrière ne suivent pas, notamment sur la gestion des déchets et tout ça.
Mais c'est là qu'on arrive à des impacts écologiques absolument terribles.
Exactement.
Dû au tourisme de masse, notamment dans des pays en développement, tu as raison, qui n'ont pas non plus les capacités organisationnelles pour gérer tout ça.
Exactement.
Et bien justement, alors tu m'amènes à mon point suivant, qui est l'idée de l'écotourisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écotourisme, en fait ? C'est une forme de tourisme responsable qui va viser à minimiser l'impact environnemental qu'on a à l'endroit où on va se rendre, promouvoir la conservation des écosystèmes et aussi laisser les populations, ne pas déranger les populations locales, ne pas venir avoir des impacts sur les populations, quelles qu'elles soient. Et on peut aussi, quand on pratique l'écotourisme, participer à des actions, des activités pour justement prendre soin de la nature. On peut se faire de l'écotourisme et dire qu'on va aller planter des arbres pendant deux jours ou faire des activités sur le développement durable.
Donc là, on est sur des nouvelles formes d'offres touristiques un peu qui se développent en Occident en tout cas. En Occident, je ne suis pas convaincu qu'en Chine, ils aient développé l'écotourisme. Pour les Chinois, qui sont des touristes de plus en plus massifs, par exemple.
Oui, c'est vrai que c'est des choses qui viennent en même temps qu'une prise de conscience écologique. Et du coup, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'écotourisme, déjà en termes d'infrastructures, on va plutôt privilégier des activités en plein air, des hébergements écologique, peut-être des façons de se nourrir aussi qui vont être très locales.
Ouais.
On ne va pas aller acheter des sandwichs au supermarché, mais on va essayer de manger ce qui se passe à la ferme, si on est dans une ferme, par exemple. Et aussi, je dirais que dans l'esprit, c'est une forme de tourisme qui va plus amener à se rapprocher des gens et à aller chez l'habitant, peut-être discuter avec les personnes, peut-être être hébergé chez des gens. Je dirais que ce sont des types d'hébergements qui vont être moins formels. On va pas être sur quelque chose parfois même de payant. On va pouvoir vraiment faire des rencontres et loger sur le balcon d'une personne, partager un repas avec elle. C'est des choses qui font partie de l'écotourisme, on va dire.
Mais il faudrait peut-être dire en deux mots pourquoi ces types de tourisme, tu vas citer d'autres types également ensuite, se développent. C'est parce qu'en fait, ces 30 dernières années, on a vu au niveau mondial une explosion quantitative du tourisme, du nombre de personnes qui voyagent dans le monde entier. C'est d'abord parti d'Occident, mais comme on le dit, dans les pays émergents qui montent en puissance en termes de pouvoir d'achat, la Chine en premier, en fait, ils fournissent de plus en plus des hordes de touristes également. Et arrivé là, on a commencé à voir les dégâts mais absolument terribles sur l'environnement, les environnements locaux de ce tourisme massif. Donc toutes ces idées d'écotourisme, de faire du tourisme autrement, ça vient d'une réaction en disant on est en train de détruire la planète en faisant du tourisme de masse.
Absolument. Et il y a une autre chose, alors je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
Ouais, je vais rebondir sur ce qu'il vient de dire. J'ai un petit exemple. Par exemple, il y a 3 semaines, j'étais au Maroc. Donc, je suis parti au Maroc pour aller surfer dans une petite ville qui s'appelle Imsouane. Oui. Donc, c'est sur la côte du Maroc.
D'accord.
Et par exemple, j'étais étonné quand je suis arrivé là-bas. J'ai vu beaucoup, beaucoup de ruines. Et en fait, c'est le gouvernement marocain, qui sont venus avec des bulldozers et qui ont détruit tous les shops qui n'étaient pas forcément légaux en termes de...
D'accord.
De papier. Ouais. Et ils ont fait ça parce qu'il y a eu un surtourisme sur Imsouane. Donc beaucoup trop de monde ont commencé à débarquer à Imsouane via surtout les réseaux sociaux. On voit les belles vagues et tout ça.
Ouais.
Donc c'est grâce à ça. Et en fait, le surtourisme a fait que les évacuations d'eau n'ont pas suivi derrière.
Et, oui.
Et ça a détruit en fait.
Et rejeté toutes les eaux usées dans l'océan, donc vraiment à côté du spot de surf.
Ouais, c'est
charmant. Il y a eu des histoires où les gens étaient malades, ça sentait, et puis on voyait dans l'eau en fait les eaux usées. Donc,
un exemple très concret de ce qu'on évoquait.
Tout à fait.
Merci Jérémy.
Le dernier point que je voulais aborder là-dessus, c'est le voyage zéro carbone. Hein, l'idée du voyage zéro carbone, c'est l'idée de réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement.
C'est presque un oxymore cette histoire, voyage et zéro carbone.
Eh bien oui, et aux activités. Alors, il y a des possibilités. Hein. On part de chez soi en vélo, on rejoint une gare, on prend le train pour aller...
Oui, le train est vraiment peu impactant au niveau
aller,
carbone.
Je ne sais pas où. Et puis ensuite, on va pouvoir faire un périple à vélo qui nous ramène à une autre gare, qui va nous permettre de rentrer chez soi. Et là, quand même, on a un impact qui est vraiment limité.
Après, et quand tu changes de continent ?
Alors, quand tu changes de continent, il faut voir. Moi, j'ai un copain, par exemple, qui a fait le tour du monde à vélo couché. En vélo couché.
Alors,
il a fait que 6 mois.
Il est passé d'Asie en Amérique, il est passé par le haut, là.
Je sais plus exactement. Ça fait longtemps. Hein. Mais disons que le plus gros de son voyage, il l'a fait en vélo couché. Il y a des moments où il a dû mettre son vélo sur un transport pour. Pour passer d'un continent à un autre.
Mais oui, dans l'idée, ça peut quand même.
Mais dans l'idée, on peut quand même, quand on part pour très longtemps, enfin lui, il était parti pour un an, il a fait que 6 mois au final. On peut quand même, quand on a le temps, pouvoir faire ça. Alors, deux choses.
Oui.
La première, attention à cette idée du greenwashing dont on a parlé également. L'idée que, on va prendre l'avion, ça va émettre un certain nombre de tonnes de CO2.
Oui.
Et en échange, on va donner de l'argent à une association qui plante des arbres, qui du coup va réabsorber notre CO2. Bon, on est comme un petit peu au pays des bisounours.
Oui, et parce qu'on sait que la plantation d'arbres est dans 60% des cas en fait du pipeau complet. C'est mal fait, il n'y a pas du tout d'effet durable de baisse de CO2.
Et quand bien même ce serait fait, c'est un peu un truc de riche, de personnes qui ont de l'argent pour se dire, se dédouaner et se dire, je peux, je prends l'avion, on s'en fiche. Et du coup, en fait, concrètement, ça ne règle pas du tout le problème.
Très bien, on arrive à la fin de cette émission, Emma.
Très bien.
Il va falloir conclure.
Alors, en deux mots, je voudrais conclure sur le slow tourisme.
Ouais.
Et peut-être, Jérémy, tu peux nous en dire deux
30
mots.
30 secondes.
C'est le fait de voyager en prenant son temps.
Exactement.
Est-ce que tu as pris ton temps, Jérémy ?
Oui, on prend son temps. On n'a pas forcément un itinéraire planifié à l'avance. Donc déjà, ça enlève du stress. Ça enlève, c'est vraiment beaucoup plus... j'aime bien ce mot « chill ».
C'est chill.
On voit ce qu'on veut faire aujourd'hui, comment on se réveille. Les vagues sont encore bonnes, on reste là. Là-bas, il y a une forêt. On fait un truc cool. Ouais. C'est vraiment en fonction des...
Ouais. Pas de programme, pas de planning effréné.
Exactement, prendre son temps.
Eh bien, chers auditeurs, on vous souhaite du coup de bonnes vacances. On vous invite au maximum à essayer de mettre en place des bonnes pratiques de tourisme pour la planète.
Et merci, on se retrouve à la rentrée.
Merci, Jérémy.
Merci à vous, merci beaucoup.
Calade. Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture. De Villefranche à Tataouine.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.